Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec cette semaine pour fêter le dernier jour de l'année. On est à J-1 de 2020, une sélection de nos meilleures émissions en compagnie de la bande au grand complet. Aujourd'hui, on va finir avec le sexe de Zep, autrement dit le livre Happy Sex, le tome 2. Bonjour Zep, bienvenue.
Merci.
Bienvenue à ce micro. Vous venez de publier le Happy Sex, le deuxième volume. Vous avez mis 2 ans à retrouver du plaisir.
À trouver. Quoi, la guerre en pleine forme. Hein.
Avoir du jus un peu. Pour,
du jus. Voilà, c'est voilà, ça. Du jus.
Alors, de... Ah, ouais,
non, ouais, pardon, on peut s'y mettre à plusieurs dans
ça
le
livre. Ça va
être
compliqué de façon pendant une heure et demie.
Mais c'est vrai que quand on a lu et quand on a ri en lisant cette bande dessinée, qui est une bande dessinée pour adultes, soyons précis, vous avez beau être le papa de Titeuf, vous n'en restez pas un obsédé sexuel.
Oui, c'est ça.
Vous... J'aime bien la tête.
J'ai bien fait de venir.
La tête du Suisse calme.
C'est que d'être dans la bibliothèque, avoir Titeuf et puis avoir Happy Sex à côté, c'est sûr qu'à chaque fois tu qu'on peux... regarde ça, non,
mais...
on sourit.
Non, c'est impossible d'avoir... Mais... mais non, c'est impossible.
Tu ne peux pas très haut dans
je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, ouais. Donc alors, je mets ça où je veux. C'est encore le bonheur. De...
C'est la grande phrase. Et je n'ai pas d'enfant, tu peux le mettre où tu veux. Mais
titre.
Il se trouve que là, il faut être prudent. 60 moments, la grosse différence c'est quoi? C'est la modernité, puisqu'on se retrouve avec le sexe connecté, on se retrouve avec les applications, ce qui était peut-être moins à la mode il y a 10 ans.
Oui, ce qui a changé, tu dis, en 10 ans, ouais. Bah oui, c'est les manières de se rencontrer, les pratiques de rencontre grâce au site.
Ah, les pratiques de rencontre, parce que les pratiques, elles sont...
Mécaniquement, ça fonctionne un peu toujours de la même manière, mais j'ai l'impression. Et puis, y a un côté plus conso aussi dans le sexe. Effectivement, on peut dire, on est plus cash, on va dire, j'aime ça. Enfin, avant même de rencontrer son partenaire, on peut déjà dire sur Internet, si on veut, avec ou sans anchois. Donc, il y a un côté un peu... on peut commander ce qu'on veut, quoi.
Tout, presque tout est abordé, en tout cas dans ces 60 planches, je sais pas comment, ou histoire, ouais, ou scénar, je sais pas comment vous préférez
les
décrire. Voilà, historiette, scénette, S-A-Y. On va en parler dans quelques instants avec vous, Zep. Mais d'abord, quel président d'un grand pays a critiqué ouvertement le travail de Trump, Philippe,
Poutine,
c'est-à-dire de
Obama.
Zep, non.
L'Européen
critiqué en mal
ou... Ah oui, critiqué, choqué.
Orban.
Erdogan. Non.
Brésilien.
Bolsonaro.
Oui, exactement. Ouais. Ah oui, mais il a
travaillé des problèmes.
Ouais, Jérémy, c'est ça, exactement. Bolsonaro, le fameux. qui ça rime avec facho, ça rime avec idiot, ça rime avec tout ce que vous voulez.
Bon, un peu de respect pour la fonction.
qui, sur un plateau de télé, en pleine campagne présidentielle, il a brandi le guide du zizi sexuel pour le critiquer. Vous l'avez vu ou vous l'avez
raconté? J'ai vu ça, j'étais stupéfait, effectivement. Ouais. J'ai dit, quelle promo, qu'est-ce qu'il fait? Pour une fois qu'il fait quelque chose de bien.
Il a même dit, et dire qu'on abat des forêts pour faire ça.
Alors qu'on pourrait les brûler, ce qui serait quand même plus simple. D'ailleurs, ça a été un coup de promo ou au contraire, vous êtes interdit de diffusion maintenant au Brésil?
Non, c'est plutôt un coup de promo parce que la bande dessinée au Brésil, c'est pas du tout.
C'est pas marché,
ce qui se passe en France, c'est pas incroyable, ça reste quelque chose d'assez confidentiel. Et c'était hyper étonnant de voir Bolsonaro en pleine présidentielle s'attaquer au guide du zizi sexuel comme si c'était une partie importante de son programme, de faire interdire les 12 000 exemplaires.
Donc c'était avant d'être élu tout ça.
C'est avant, mais c'était le débat télévisé juste avant le dernier tour.
Le débat du deuxième tour.
Mais, oui, ouais,
mais c'est peut-être à cause de vous qu'il a été élu.
Peut-être, parce que je pense que les gens étaient vraiment sensibles à cet argument.
Au final, la culpabilité. Est-ce que vous avez beaucoup de retours, alors peut-être pas d'hommes politiques ou de personnalités autour de votre travail, et particulièrement le guide du zizi sexuel ou Happy Sex? Est-ce que ce sont des choses qui éveillent plus la curiosité que Titeuf, qui est un énorme succès planétaire mondial, mais est-ce que vous avez des réflexions, voire des personnes choquées?
Non, sur Happy Sex, non, parce que c'est un livre pour adultes, il est emballé, c'est écrit réservé aux adultes, ça s'appelle Happy Sex. Généralement, les gens qui viennent savent un petit peu. Ouais. Donc personne va me dire.
Ils seront pas déçus,
en tout cas. Profondément choqués. Généralement, les gens sont plutôt contents, ils se sont marrés, voilà. Mais par contre, dès qu'on parle de sexualité et qu'on s'adresse à des enfants, là,
ça
déclenche des peurs incroyables. Donc le guide, ça continue à être un livre qui est Titeuf de manière générale. Il continue à avoir des détracteurs, même au Brésil. J'étais très surpris. Mais effectivement, Bolsonaro avait déjà fait sur sa chaîne YouTube, il avait déjà fait deux vidéos où il brandissait le guide en mettant le doigt à l'intérieur l'intérieur il y a un trou, on peut expliquer un peu comment ça marche. Donc, c'est assez drôle, j'ai une vidéo de Bolsonaro qui nous fait la démo. Moi je parle pas portugais, donc je comprenais pas. Je voyais son expression qu'il avait pas l'air d'adorer. Je me dis peut-être que culturellement, la pub ça se fait comme ça au Brésil. Je le connaissais pas la première fois que j'ai vu ça, c'est peut-être il y a 4 ans. Ça fait un moment hein, qu'il en veut au
vide. Non, mais de la même manière.
Je pensais
que
c'était l'attaché de presse locale. Je me disais, tiens. En tout cas, il y croit, quoi. Il a une conviction dans son truc.
Mais finalement, oui, c'est, vous avez raison. C'est comment dire, il faut être flatté d'avoir un
détesté par les cons.
Ouais. Bah, détesté par les cons, c'est une qualité, non ?
Bien sûr, il vaut mieux.
Pourquoi le mot guidon était devenu une insulte suprême quand il était petit ?
Il se l'est pris dans le.
Non.
Guidon.
Parce qu'il savait pas faire.
T'as vu, je veux même pas savoir où il se l'est pris. Hein.
J'avais terminé cette phrase.
Guidon, c'est une insulte. Pourquoi ?
Ah ouais.
Et c'est lié à une histoire personnelle, pas lié à une explication linguistique.
Non, c'est une histoire de Titeuf.
Pas lié au vélo.
Mais c'est qui est une histoire vraie dans votre vie d'enfant ou pas ?
Oui.
Parce qu'on n'avait pas le droit de dire pédale, donc on disait guidon.
Ah là là.
En tout cas, on ne comprenait pas pourquoi pédale était une insulte, donc l'insulte
par
suprême devient
voilà,
guidon.
C'était guidon. Enfin, tout ce qui s'associait au vélo semblait être un truc un peu agressif.
Chambre à air.
Ça, c'était salaud. Chambre à air, c'était violent. On n'osait pas.
C'est vrai que c'est...
Zep a eu un professeur particulier parce que ce dernier disait ou prétendait quoi ?
Qu'il ne savait pas dessiner.
Alors, c'est à propos du savoir, mais ce n'est pas du dessin.
Écrire,
jouer de la musique. Musique, non, guitare, chanter.
Retenir des trucs.
Quelque chose en termes de savoir.
À propos de Zep ou à propos de lui ?
Non, à propos de...
Savoir que la Terre était plate.
De la connaissance.
Qu'il était crétin.
Alors, que la Terre était plate, non. Qu'il était crétin, non. Au contraire.
Qu'il était
surtout intelligent.
Ouais, je pense.
C'était un génie.
Génie ?
Non,
doublette.
Il prétendait tout savoir.
Ah.
Prétendait
mon prof.
Oui, pas vous. Oui, non, je parlais du prof. Ouais. Et donc vous passiez votre temps avec vos copains à chercher à le piéger.
C'est-à-dire qu'on lisait des. c'est ce qui m'a fait aimer le dico en fait. On lisait des définitions dans le dictionnaire la veille ou surtout dans les noms propres. Et le lendemain, on lui posait les questions vraiment les pires quoi.
Et il savait
qui était Eugène Poubelle, enfin des choses comme ça.
Ça va. Et,
ça c'est assez facile. Il y a un indice. Mais il se déballonnait jamais, il répondait toujours, mais quand il savait pas, il inventait un truc. Et donc, effectivement, là, on voyait le bloquer, on disait, ah non, erreur, car, comme le dit le Larousse 71.
Comme mais ça, donc, on apprend en même temps.
On apprenait.
On remarquait.
Mais là.
On s'est pas rendu hyper populaire auprès de.
Non. Mais là, on apprend quoi dans ces cas-là à l'école? À être déjà un petit con dès le début ou à justement se forger sa personnalité, son caractère?
Je pense qu'on apprend deux trucs. On apprend à être un peu un casse-couille et on apprend aussi qu'au fond, les adultes, même s'ils nous donnent l'impression de tout savoir, ne savent pas tout.
C'est clair.
C'est une chose importante.
À 20 ans, où Zep aimait-il se réfugier?
Dans les toilettes.
Cinéma?
Non. Dans la cave.
À l'extérieur.
Non.
Dans un arbre.
À l'église.
C'est... Dans un arbre.
À l'église.
Monastère. Exactement.
Monastère. Ouais.
C'était se réfugier, vraiment, il y avait une notion de protection.
Non, c'était plus, je partais, j'aimais bien aller faire des retraites dans le silence. Je trouvais ça assez incroyable, le fait d'être dans un lieu où personne parle.
Y penser, Nagui.
Et vous dites que vous avez arrêté quand vous avez des enfants, c'est ça ?
Ouais,
mais là, pourquoi,
le silence,
justement,
les enfants.
C'est délicat,
non, mais c'est une façon de laisser les enfants.
Non, mais c'était, ça aurait été pas mal, effectivement.
Et pardon, la croyance est quand même le lieu de prédilection, enfin, les monastères, dit croyance, dit religion. Ouais. Est-ce que vous êtes croyant ? Est-ce que.
Non, je suis plus, mais je l'ai été pendant cette période. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'interrogeait. Et puis, j'étais assez fasciné par cette idée de s'extraire du monde et de partir. En même temps, quand on fait de la bande dessinée, on n'est pas complètement plongé dans une vie trépidante de bureau. On est tout seul dans l'atelier, donc c'est déjà assez cool. Mais d'être un peu même déconnecté de l'époque, je trouvais ça assez fascinant de rencontrer ces gens qui avaient tout quitté. En même temps, je pouvais pas dire que j'avais des longs moments d'échange avec eux puisqu'ils ne parlaient pas.
Ce qui est incroyable, c'est que votre désir de, comme vous l'avez dit, de s'extraire du monde dès l'instant où vous écrivez et vous signez Happy Sex, s'extraire, on l'écrit plus du tout de la même manière. C'est ça qui est dangereux avec vous. Comment Zep a-t-il dessiné un jour les clients d'un restaurant ?
Tout nu ?
Nu ?
Non.
Sur une table.
En sous-vêtement.
Sur le mur, en grand ?
Non, mais en tout cas, il l'a fait avec son regard d'obsédé.
Il les a. Ah. Transformer et changer les sexes en homme en femme.
Transformer en animaux.
En quoi ?
En mer, en plat.
En plat, non. En meuble. En meuble. Non, pas en meuble, non.
En tub, en,
oui,
en
exactement.
Sexe.
Exactement.
Bah alors, des tubs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Vous voulez, bon, bah, c'est que le
du verlan, un pénis. On sait dire ça, mais on sait pas dire, bah, cela.
Bah, voilà. Tu peux dire zizi.
Je peux dire.
Vous avez dessiné toutes les personnes du restaurant en zizi.
Ouais, mais c'est assez drôle à faire comme exercice.
Arrêtez, parce qu'on va vous demander d'essayer la bande originale en zizi.
Il y a un exemple, il y a Titeuf, ici, qui est.
C'est vrai.
En
God Michel.
Voilà, en God.
Pour la fête des mères.
La chute, c'est pas une bonne idée pour la fête des mères.
Mais
c'est pas pour la fête des mères.
C'est une idée, quoi.
Ceci dit, pourquoi pas, après tout, si ça peut lui faire plaisir.
Moi, j'en ai un. J'ai un Nagui. C'est un truc de voyage, il est tout petit.
De poche.
Exactement.
De poche. Donc, ce deuxième tome d'Apisex, vous vous êtes donné des limites, ou au contraire, le gros avantage lorsque l'on écrit un livre pour adultes, c'est qu'on peut tout se permettre.
Il y a pas d'interdit. Ouais, normalement, on peut tout se permettre. Donc non, il y a pas de tabou, pas de pages qui ont été écartées parce qu'elles étaient. Enfin, de toute façon, on voit tout. Pour moi, on est entre adultes, c'est explicite et il y a pas de raison de. Si je dois dessiner un anus, de le styliser différemment, parce que c'est le dessin permet aussi d'avoir une distance qu'aura pas le cinéma, par
ils
exemple.
Ils sont très bien dessinés, en tout cas.
Mais j'ai un dessin assez méticuleux, donc effectivement, j'ai pas un dessin très... Je suis pas Hugo Pratt qui va évoquer les courbes. Si je dis une paire de couilles, c'est une paire de couilles.
Voilà, vous êtes tellement méticuleux que, si je peux me permettre de raconter aux auditeurs ce qui s'est passé juste avant l'émission, vous étiez en train de faire gentiment un dessin pour quelqu'un, et je vous dis, on est en direct, il y a l'antenne qui arrive, il faut y aller, et ce à quoi Zep m'a répondu, bon, alors je vais lui mettre moins de poils, comme ça. Parce que je suis très méticuleux.
C'est ce qu'il y a le plus long.
Ouais, c'est ce qu'il y a le plus long. Bah, oui. Un par un, c'est ça. Vous pouvez pas dessiner.
On n'a pas trouvé d'autres.
Autrement, justement, le dessin. Albert Agout, toi qui es un spécialiste.
Oh, spécialiste, mais.
De la bande dessinée, non, mais comment juger le talent de Zep?
Ben, justesse du trait, vivacité du trait, parce que c'est un formidable dessinateur. Et ce qui est formidable, c'est que l'art de Zep, disons, ça fait un grand mot, là, mais l'art de Zep, ça transfigure justement la trivialité. Ce qui pourrait être obscène ne l'est pas. Et c'est ça qui est formidable. Ouais. Et la drôlerie s'installe. Mais aussi, comment dire, je veux dire, s'il y a de la profondeur, vous allez ricaner. Mais
non, c'est pas notre genre.
Non.
Parce que, comment dire, le dessin de Zep, il n'est pas simplement anecdotique. Il y a aussi, il y a beaucoup de sens. Notamment, les rapports filles-garçons sont ici vus à une lumière tout à fait critique et sympathique, à mon avis.
Pardon, hein, je ne sais pas s'il y a un regard sociétal dans votre dessin. Vous cherchez toutes les situations possibles et imaginables, mais pas spécialement. On peut pas dire que ce soit un album féministe, on peut pas dire que ce soit un album machiste non plus.
Non, c'est une observation contemporaine de la sexualité de mes contemporains.
Non, mais moderne, réaliste et un peu triste. Notamment, je pense à la planche là de la Cougar. Qui avec avec un jeune garçon, c'est assez triste, en fait.
Et puis, assez triste, ouais. Je suis d'accord.
Mais il y a aussi surtout beaucoup la société de consommation, c'est-à-dire que c'est le sexe
qui se consomme,
à la chaîne, ouais. Mais il y a aussi la monotonie dans le couple. Il y a aussi
l'envie d'essayer des trucs, et c'est souvent un peu casse-gueule. Mais c'est vrai qu'on n'a pas c'est pas dans nos pratiques de parler de sexe, pour finir. On le fait, on consomme, mais de moins en moins on en parle avant,
par pudeur.
Et on n'en parle pas après, parce que ça fait un peu bizarre, ces débats, enfin je sais pas, c'est ça étrange. Ouais. Du coup, on parle peu de ses préférences. Les hommes, on est quand même dans une tradition de performance, donc on va peu raconter nos failles. Alors moi, j'ai beaucoup plus de peine à voir des anecdotes de la part de mes copains, que les amis sont beaucoup plus généreuses pour raconter ce qui leur est arrivé.
Mais parce que surtout, et c'est le sujet d'ailleurs d'une planche, sur l'orgasme...
On a moins à raconter, c'est clair.
Voilà, ouais. Sur l'orgasme, formidable. C'est absolument génial, c'est-à-dire qu'il y a toute une page sur l'orgasme féminin...
Vu par les filles.
Non.
Les métaphores.
Non, mais les métaphores vues. Si, oui. C'est les filles. Hein.
Ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les femmes ont la chance d'avoir tous les orgasmes possibles et imaginables. Et puis l'homme est juste là avec son petit bouchon qui.
C'est une bouteille de champagne qui saute, quoi.
Voilà, c'est ça, ça va pas plus loin.
Alors que les filles, c'est d'une variété, d'une poésie.
Ah, bah, c'est la galaxie, c'est voilà. Tout d'un coup un
tableau
champ,
de Miro.
Un champ merveilleux en fleurs. Et
du surf.
Oui,
ça va être une grande vague.
C'est une grande sensation, quoi.
Mais c'est ça qui est.
C'est vrai qu'on n'a pas grand chose. C'est pour ça qu'on parle plus. plus de la taille de notre tub, parce qu'on n'a pas grand chose à raconter autrement.
Deux fois.
Ça s'appelle, ça s'appelle Happy Sex, c'est toujours chez Glénat, vous ne changez pas
c'est,
de...
Non, c'est chez Delcourt.
Ah, chez Delcourt, ouais. pardon. Alors, chez Glénat, c'est Zeb et c'est Capitaine Biceps.
Capitaine Biceps chez Glénat.
Pardon. On va continuer évidemment d'en parler, mais d'abord voici d'autres révélations faites par... C'est pas François
c'est
François
le... Non, c'est le père Albert.
Oh, bah pardon mon père.
Non,
mais on peut l'applaudir quand même.
Bien sûr. Bonjour Nangui, coucou Zeb.
Bonjour mon père.
Aujourd'hui, à sa demande, je remplace mon ami François, qui est en garde à vue pour viol. Mm-hmm. Alors, je vous rassure tout de suite, pour viol de sépulture, il s'est rendu au cimetière canin d'Anières pour déterrer Paquita, sa fidèle chienne, afin de la faire empailler. Alors, il s'est fait prendre la pelle à la main, mon cousin. Bref, c'est donc moi ce matin qui suis chargé de révéler les vérités qui dérangent. Moi aussi, comme vous Nangui, j'ai lu Happy Sex avec une très vive curiosité. Comme vous le savez, le chaste célibat auquel je suis voué me tient éloigné des tentations de la chair et, fidèle au règlement de ma boîte, je pensais avec innocence que c'est dans l'obscurité la plus totale, sous les draps, dans la sainte position du missionnaire, grâce à une ouverture ménagée dans leurs chemises de nuit respectives, à la hauteur de leur partie honteuse, qu'un papa et une maman, devaient s'accoupler dans un but unique, la procréation d'un petit enfant. Eh bien, rien de ça dans Happy Sex, où il n'est question que de sado, sodo, masturbato, nos danus, trisome, bit service, sextoy, levrette, cougar, essai massage érotique, gender fluide, j'en passe et des pluthorides.
Ah oui, gender fluide, c'est vrai.
Mais, quitte à vous surprendre, mon cher Nangui, tout cela ne m'a point choqué.
Tiens.
En effet, à la différence des boules de vis dessinées par Zep, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et comme l'a pensé Georges Bataille, évoquant Sainte Thérèse d'Avila en extase, le ravissement charnel est peut-être une expérience mystique, va savoir. Donc tout cela ne me choque pas. En revanche, cher Zep, je tiens à dénoncer ta véritable intention. C'est au verso de ton album, et non sur la couverture, que figure la mention réservée aux adultes. Et ça ne me dit pas que c'est un oubli, car tu le sais pertinemment, un jeune en recherche de sensations, fan de Titeuf, voyant ton nom sur la couverture de Happy Sex, va immédiatement feuilleter l'ouvrage, et son innocence s'en trouvera précocement souillé. Tu as perdu la foi, tu le disais tout à l'heure, mais tu mériterais un exorcisme flash. Pas des rétro exert corpus zepus diabolicus. Mais, comme le temps me manque, je dois y aller. Mon ami l'abbé Jacques Facial m'attend dans ma camionnette, garée en double fil. Bonne bande originale.
Merci à tous.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Vous êtes bien dans la bande originale, celle avec Zep comme invité. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Voici Minouche de Rachita.
Minouche, ma Minouche, pourquoi tu te fâches? Ne prends pas la mouche, ma jolie peau de vache. Quand la foudre te touche, un petit rien t'échauffe. La colère te fauche. Le clash, si personne ne triche, j'aime les rouges qui tâchent quand ils sortent de ta bouche, la jolie ganache, tes airs de manouche. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Rachita à l'instant avec Minouche, Mam Minouche, vous êtes bien dans la bande originale, celle de Zep, et nous parlons de Happy Sex, le tome 2. Et le point de vue féminin dans tout ça, Leïla, bah oui, évidemment, évidemment, bah, parce que la femme est de toutes les planches.
Oui, et j'ai ressenti ce côté, j'imagine qu'autour de vous, les femmes ont été plus promptes à vous raconter des choses, avec humour aussi, c'est-à-dire que on n'est pas dans la culture de la performance, et on est plutôt dans l'anecdote, je pense à celle de la forte poitrine notamment, qui m'a fait pleurer de rire. Merci Simpson, mais c'est délicat d'en parler sans que les auditeurs voient cette planche.
Il faut pas tout dévoiler.
Non, faut pas tout dévoiler. Mais surtout, je me suis énormément amusée. J'ai beaucoup ri.
C'est très drôle.
Vraiment, ouais. Vraiment, c'est génial.
C'est très très drôle.
C'est l'ironie. Voilà, j'ai changé le mot tout à l'heure. L'ironie constante pour surtout pour les garçons, je trouve, pour les filles aussi.
Oui, mais... c'est ça. L'homme ne sort pas vainqueur quand même.
Grandit.
Toutes les situations. Ouais.
Non,
encore
mais
la
c'est...
taille, encore un problème de taille. Ah
bah, le micro-pénis est évoqué. Hein.
Oui, c'est vrai.
En revanche, on n'a pas d'histoire de. On a deux femmes, on a un homme, une femme, on n'a pas deux hommes. Enfin, il y a une planche où, malencontreusement,
il y a
un dérapage
aussi deux hommes. Ouais. 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 Non, il n'y a pas d'histoire homo. En fait, j'ai écrit beaucoup d'histoires.
Ça a rappelé,
mais je me suis rendu compte que mes histoires homo, elles ne sont pas. C'est moins mon. C'est pas, ouais. C'est pas mon domaine. Ouais. Et il y a un auteur. Il y a un auteur allemand homo que j'adore qui s'appelle Ralph Koenig. Qui
Ralph Koenig,
une bande absolument génial sur le quotidien sexuel.
Ralph Koenig.
Ralph Koenig, comme
Koenig.
Le roi.
Koenig.
D'accord. Et voilà, donc je me sentais moins appelé à raconter ces histoires-là. J'ai gardé une histoire avec deux femmes.
Oui, c'est génial, deux femmes, ça vous a pas freiné voilà.
Non. Mais dans l'absolu, j'étais parti pour en faire aussi. Mais il se trouve que mes histoires hétéro étaient mieux, je pense.
Ouais.
Donc,
Oui, et puis il y a des groupes, il y a des troupes, il y a de tout. Ça part dans tous les sens.
Il y a de la mayo.
Il y a beaucoup de solitude aussi. Il y a beaucoup de solitude. Il y a aussi, notamment, je pense au sexe connecté, où chacun dans son coin se fait plaisir, ou pas. D'ailleurs, on va pas non plus révéler la chute.
C'est sur la technologie qui nous emmerde à l'arrivée.
Non, alors ça, c'est une invention ou ça existe? Pardon pour
la question. Ça existe, ouais, ça existe, bien sûr.
Ça existe. Vous êtes documenté sur
des sextoys connectés à distance où chacun peut se faire plaisir par Wi-Fi.
Oui. Alors ça demande d'avoir une
bonne connexion.
Moi, je suis assez mauvais. Déjà mon ordinateur me pourrit la vie. Là, je vous dis pas quoi. C'est 4G, carrément l'horreur.
4G. Alors, je rappelle que c'est
la 4G.
C'est le mode de diffusion. Ouais. C'est ça. C'est pas l'endroit.
C'est pas un super orgasme.
C'est pas l'endroit où ça se passe. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de retours féminins, ne serait-ce que votre propre épouse? Est-ce qu'elle est la première juge électrice?
C'est ma première. Enfin, j'ai deux lecteurs. C'est mon éditeur, Guy Delcourt, et mon épouse. Et donc, je leur fais lire mes storyboards, qui sont les pages dessinées de manière assez simple. Et généralement, alors mon
ça
éditeur
fait rire,
me
votre
répond,
femme. Ouais.
Mais ma femme, je vais voir quand elle le lit, parce que je regarde comment elle réagit, si elle éclate de rire ou si elle dit ah c'est sympa. Et je fais ma sélection comme ça. Quoi.
Dis-moi Albert.
Dans le dessin aussi, ça me vient maintenant. Les personnages sont des gens de la vie de tous les jours, c'est pas forcément des Apollons, ils ont des physiques très variées, j'allais dire normaux, ordinaires. Et ça, c'est un clin d'œil peut-être, ou une référence à un dessinateur formidable qui est Dubout, qui a dessiné
dans les vannes
Oui, bien sûr, ça, qui se prête parce qu'il a fait aussi des dessins érotiques, mais lui, c'était plus dans la trivialité, donc presque étrange tellement c'était trivial.
Mais alors, est-ce que vous... Tant qu'à sortir de votre personnage de Zep, hein, parce que il y a Philippe dans la vie de tous les jours, il y a Zep pour dessiner Titeuf ou Capitaine Biceps, pourquoi c'est Zep qui écrit Happy Sex et pas Philippe Chapuis ou un autre pseudo?
Pour moi, ça fait partie du même travail. J'aurais pas envie de cacher ça. Pour moi, on n'est pas dans l'idée d'un enfer où il faut le. C'est pas honteux. Je trouve que c'est plutôt même pour les enfants, parce que c'est quelque chose que, alors, contrairement à ce qu'a dit le père Albert, l'album est blisterisé, donc il est quand même protégé. Il est vendu dans un emballage plastique.
Mais ils sont habiles, tu sais.
Ils sont habiles. Ils sont fourbes. Et donc j'ai souvent des enfants en dédicace qui me disent mais pourquoi nous on n'a pas le droit de pourquoi on n'a pas le droit d'avoir ce livre évidemment. Et je trouve cool de qui ça les intéresse, évidemment ça les interroge. et de leur dire qu'ils le liront quand ils seront plus grands, même si je sais bien que
qu'ils vont le faire piquer avant,
le lire avant. Mais évidemment, on sait aujourd'hui que les enfants de 10 ans ont tous vu de la pornographie
sur Internet.
C'est,
oui.
Ouais, c'est pas violent, nocif pas, de voir ça par rapport à punir la pornographie. On en fait aussi toute une terreur pendant longtemps. On avait l'impression que si nos enfants voyaient une image pornographique, il fallait les emmener chez le pédopsie. La plupart du temps, ça les fait
alors
rigoler.
Que les parents d'Adiel l'ont emmené chez le vétérinaire.
Non, mais c'est vrai que la typo de la couverture, elle peut évoquer quelque chose d'hyper enfantin et de souriant, donc la tentation doit être grande, quoi.
Dès qu'on sait lire, c'est quand même écrit sexe, en gros.
Oui, mais alors, bon, sexe. Ouais.
C'est Titeuf qui a grandi, souvent, c'est un personnage. C'est
complètement,
Titeuf,
pour moi, c'était le 1, c'était je faisais un Titeuf pour les grands.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que la question du happy, parce qu'on s'arrête évidemment beaucoup sur sexe, mais est-ce qu'il fallait que ce soit joyeux, il fallait que ce soit avec le prisme de l'humour, que vous parliez de sexualité, et pas celui de l'esthétisme ou celui de simplement l'histoire racontée.
Ouais, moi j'ai envie. Enfin, je trouve que c'est un sujet qui est souvent trop sérieux et qui mérite un peu de légèreté. C'est au centre. Enfin, c'est un sujet.
Ça va rarement ensemble au moment où ça se passe, en tout cas.
Alors, éclater de rire au moment où on le fait, c'est pas génial. Généralement, pour les messieurs, c'est un peu perturbant. Mais vaut mieux se marrer si ça marche pas et reprendre plus tard. Je pense qu'on a un urgent besoin de se marrer de ce sujet parce que ça devient souvent un pansum. C'est quelque chose qui pourrit la vie des couples et aussi et même des gens tout seuls.
Ça pourrit la vie ou c'est le moteur aussi pour certains ?
C'est le moteur, mais ça peut être quelque chose qui devient... Si ça se passe pas bien, si ça se passe bien, oui, bien sûr, c'est un moteur, mais si ça se passe pas bien, ça peut être quelque chose qui vraiment vous gangrène la vie, alors que moi, je pense que c'est quelque chose qui est là pour l'épanouissement.
Mais là, vous avez raison, c'est que c'est pas la question de ça se passe bien ou pas bien, c'est que ça peut toujours mieux se passer. C'est-à-dire qu'on cherche à voir quelle peut être l'évolution pour ne pas tomber dans la banalité et faire toujours la même chose.
Ouais, mais le fait de pas en parler...
D'où les accessoires, d'où les...
Oui, les sextoys, ouais. Mais ça, c'est de la cosmétique. Mais le fait de
c'est récent quand même, pardon,
de rigoler de ça ensemble, ouais. C'est déjà une bonne manière de sortir d'une situation où on est bloqué, on a une sexualité qui est pas épanouissante ou est pas épanouissante pour l'un des deux ou l'un des trois ou l'un des quatre et le fait de pas pouvoir le dire ça va juste pourrir petit à petit la relation, la vie de la personne, alors que des fois un bon éclat de rire permettrait de
ça marche
de passer et de mettre à vie, ça dédramatise tout de suite en ouais. Plus.
Bah, je vais voir si Bolsonaro, ça le fait marrer, par exemple. Je sais pas si ça va suffire.
Envoyez-lui le tome. Ça s'appelle Happy Sex, c'est le deuxième de la série, parce qu'on imagine que vous n'allez pas vous arrêter, et tant mieux. En si bon chemin, c'est aux éditions Delcourt, et c'est signé Zep. Voici monsieur Jérémy Crémier. Hola.
Bonjour à tous.
Tu te déboutonnes.
Mais je ne suis pas Jérémy Crémier.
Oh la vache.
Je suis Jean-Guy Hallyday, le sosie de Johnny Vegas, sosie de Johnny Hallyday. En gros, je suis le sosie du sosie. Rock and roll. Je suis ravi d'être dans ton émission, Maggie. Au nom de tous les chroniqueurs, d'ailleurs, je t'ai écrit une chanson.
Oh, Nagui, si tu pouvais arrêter de nous couper toutes les vannes qu'on a loupées. C'est parce qu'en même temps que nous tu parlais.
Voilà, le message est passé.
Bravo.
Mais c'est sympa, non?
Mais c'est pas fini.
C'est pour tes droits d'auteur.
Oui. Non, je suis également ravi de rencontrer Leila Kaboul Boudbadi. Daniel Moru, Albert Holgood et Zip. J'aime beaucoup tes BD, Zip, parce que il y a de la lecture et il y a des dessins. Et puis même que si c'est en noir et blanc, tu peux colorier tes BD. Rock and roll. Moi aussi, j'ai ma bande originale. La dernière fois, on était en week-end entre copains sosie. On était en train de se baigner, mais il y en a une qui voulait boire une carafe de Ricard. La sosie de Véronique Sanson. Alors, on est sorti de la piscine. On s'est essuyé. Et là, il y en a un qui a dit, c'est bon, les sosies sont secs, on peut commencer l'apéro. Mon préféré dans le groupe, c'est Titi. Merci pour la batterie. Mon préféré dans le groupe, c'est Titi. Il est muet. C'est le sosie vocal d'Étienne Dao. Mais ce matin, je suis venu vous parler du succès d'un autre sosie. Ah. Le sosie vocal de Johnny, qui est breton. Il a donc non seulement la même voix, mais aussi le même taux d'alcoolémie. Chouchen ! Faut savoir que les meilleurs sosies ne sont pas bretons, mais alsaciens. Ce sont les fameux sosies de Strasbourg.
Oh.
Et on connaît tous quelqu'un qui est son sosie.
On connaît tous une personne qui est son sosie. Pour faire Nagui, il suffit d'être petit. Pour faire Leila, suffit pas d'être joli. Pour faire Morin, il faut avoir envie. C'est ça la vie de sosie.
Voilà, bon. Le sosie breton s'appelle Jean-Baptiste Guégan, dit Molière. J'ai lu dans Le Parisien qu'une partie des fans de Johnny se retrouvait dans ce breton de 36 ans. Ça doit faire mal. Balade. Balade, c'est comme rock'n'roll, mais en plus doux. Le sosie vocal a sorti son album le 30 dehors, le 30 août en anglais, et le mec est devenu disque d'or en 2 semaines. Hein, il entame bientôt une tournée des Zéniths, et ça c'est un profond manque de respect pour la profession de sosie. Oui, parce qu'il y a des règles à respecter en tant que sosie. Normalement, un sosie, ça fait pas la tournée des Zéniths. Non, ça fait la tournée des galeries marchandes. Promotion ! Ensuite, on doit prendre soit le nom, soit le prénom de celui dont on est le sosie. Pour les sosies de Claude François, c'est plus compliqué puisqu'il a 2 prénoms. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Frédéric François, c'est le sosie de Claude François et de Carole Frédéric. Jean-Baptiste Guégan, finalement, il a fait fortune grâce à la mort de Johnny Hallyday. C'est donc pas que le sosie de Johnny, c'est également le sosie de Laetitia.
Oh.
Oui, il a de la chance, Jean-Baptiste Guégan, parce que c'est le parolier du vrai Johnny qui lui a filé des chansons que la star devait enregistrer. Le mec avec les droits d'auteur, il peut acheter la Suède. Ça sème dernier cri. Non, mais vous imaginez si c'était le parolier de Grand Corps Malade qui avait écrit l'album ?
Accent.
Que je peine à trouver une fin à cette chronique.
Bravo,
Jérémy,
c'était original. Nagui sur France Inter.
C'était pas radiophonique, mais.
Si.
Mieux que l'original.
Super bien.
Et les tatouages sont top.
Franchement, tout à l'heure dans le.
Il s'est.
Il s'est grimé.
Il s'est déshabillé déjà pour la chronique. Il avait la chemise grande ouverte. Il faut voir le podcast pour comprendre à quel point, même physiquement, hein, le regard, la position.
La bouche.
La totale.
Le filet de bave.
La bûche. C'est pas la bouche, c'est la bûche. Zep et la musique, puisque Zep a choisi ce pseudonyme en clin d'œil à Led Zeppelin. Est-ce que vous jouez toujours de la musique? Est-ce que la musique est toujours très présente dans votre vie? Est-ce que vous l'écoutez en travaillant?
Oui, ça dépend. Ça dépend, mais la plupart du temps, quand je dessine, j'ai de la musique. Alors c'est pas lié, c'est pas parce que je fais Happy Sex que je vais écouter que Prince et Marvin Gaye, par exemple.
Mais, ou Barry White.
Non, je peux même ni Pierre Perret parce que je dessine Titeuf.
Il y aura un Happy Rock 2 ?
Je pense pas. Non. Je suis moins. À l'époque où j'ai fait Happy Rock, j'allais vraiment au concert très souvent, donc j'avais plein d'histoires à raconter. Là, je suis devenu un peu plus pantouflard.
On va évoquer la musique dans votre vie, celle que vous écoutiez, et j'en ai parlé. Led Zeppelin, c'était début des années 80. D'avoir Love aussi avec Led Zeppelin, justement, on retrouve et le Happy Sex 2 et votre pseudonyme de Zep. C'était vraiment l'un des répertoires que vous jouiez le plus quand vous étiez dans un groupe ?
Ouf, qu'on essayait, mais c'était à l'époque où j'ai pris ce nom, j'avais 12-13 ans, donc on était hyper débutants, on jouait affreusement mal, donc on essayait de singer Led Zeppelin, mais c'était vraiment pas brillant.
Vous entrez aux Arts Déco à Genève, où il y a une section qui tout d'un coup vient de s'ouvrir pour de la bande dessinée, ce qui n'était pas prévu initialement. Depuis quand vous avez vraiment envie d'être dessinateur ? C'est né quand ?
Ah, tout le temps, en fait. Quand j'étais tout petit, en fait, même avant de commencer l'école, moi j'ai commencé l'école assez tardivement. Je suis rentré à 4 ans et demi. J'ai squeezé la première année de maternelle. Et je dessinais à la maison, je recopiais les bandes dessinées. En fait, mes parents lisaient de la BD, donc je recopiais de la BD. Et ça me fascinait, j'avais envie de faire la même chose, sans savoir ce que ça voulait dire. Mais en fait, pendant je pense. Mes 5 premières années d'école, je disais à chaque fois ça, je disais quand je serai grand, je ferai de la bande dessinée, mes profs me regardaient avec un petit sourire entendu, genre oui, mais ton vrai métier, qu'est-ce que ce sera? C'était pas.
Ça vous a pas découragé?
Non, parce que, quand on est petit, on est naïf, et puis j'étais sûr que ça, ce serait quand même possible. Et après arrive à l'adolescence, le fait de, commencé à aller voir des rédactions, de présenter mes dessins et de me faire jeter. J'avais une double motivation. Puis je me disais, en plus, j'ai envie de réussir pour prouver à ces gros bâtards qu'ils avaient.
Attendez.
Ah oui.
Happy Sex.
Un pro, hein. Il arrive jusqu'à l'orgasme, ouais. Il raconte son histoire et ça s'arrête pile au moment de l'orgasme. Fin des années 80, l'excellent Mink Willie DeVille. Qu'est-ce que vous aimez chez Willie DeVille?
J'adorais le personnage. Déjà, c'était vraiment...
La dégaine, la coupe de cheveux.
La dégaine, sur scène, la manière dont il bougeait.
Tout maigre.
Tout maigre. Ouais. Il commençait en redingote avec une lavalière hyper classe. Il finissait à torse nu, trempe de sueur avec des tatouages partout. Ça devenait un animal. Et j'ai eu la chance de faire des affiches pour lui à l'époque.
Super.
Donc je l'avais vu, j'avais été le dessiner en loge. C'était vraiment un personnage, il avait une dent en or. Enfin, c'était. J'adorais ce bonhomme. Il se baladait avec des petits chiens qui sentaient très très mauvais.
Non, mais c'est vrai qu'il avait un petit côté cocotte et puis un côté très rock.
Mais vraiment entre le début du concert et la fin du concert,
c'est pas le même.
C'était deux personnes complètement différentes, un peu comme Jagger aussi qui. Et de se transformer vraiment en cours de show.
Et fin 80, début 90, c'est une période difficile, puisque vous demandez si vous allez pouvoir continuer. En tout cas, vos parents s'inquiètent en disant il va devenir graphiste, il va faire autre chose.
Quelle horreur.
Ouais.
L'insulte.
Et qui, comme souvent dans ces circonstances-là, c'est... soit on abandonne tout, soit il y a un élément qui vient sauver tout.
Voilà, ouais, l'élément, c'est Titoff, en fait, qui est venu sauver tout.
Et comment
Début des années 90, j'avais du travail en fait. J'envoyais des dessins un peu partout, je faisais des dessins dans la presse, je faisais pas mal d'affiches culturelles. Mais tous mes projets BD que j'envoyais à des éditeurs étaient systématiquement refusés. Donc là,
ils ont eu du flair.
Hein. c'est souvent comme ça. En fait, ils passent leur temps plus à refuser des projets qu'à en accepter. Donc, je commençais à douter sérieusement de ma vocation. Mais j'avais envie de faire de la bande dessinée. Mais je me rendais compte que la bande dessinée que je voulais faire était peut-être pas forcément celle qui serait publiée. Donc, j'ai commencé à dessiner un truc pour moi dans un journal, une sorte de journal intime en fait. Et j'ai eu envie de dessiner l'histoire de mon enfance. Et mon atelier donnait dans une cour d'école. Donc j'ai dessiné cette cour d'école. Et le fait d'être en contact avec ces gamins, pendant la récré, je les entendais gueuler, s'insulter, inventer des mots. D'être dans ce côté très transgressif des gamins. Mon enfance, que j'avais partiellement, en grande partie oubliée, est revenue. Et j'ai commencé à dessiner... des souvenirs de cette époque-là, et j'ai dessiné mes copains, mon école, mon quartier.
Hélène était déjà dans votre vie ou pas?
Non.
D'accord.
C'était 10 ans avant.
Presque. D'accord.
Et au moment de me dessiner, j'avais pas envie de me dessiner moi gamin, parce que le truc qui me coupait le plus les pattes à l'époque dans la bande dessinée, c'était de dessiner des cheveux. Je détestais dessiner des cheveux.
Et moi, décidément, les poils tout à l'heure, les cheveux pas.
C'est horrible, on n'en sort pas, quoi. C'est vraiment le truc laborieux, parce que tu dois redessiner ton personnage des centaines de fois. Et quand il faut dessiner les lacets, les cheveux, le truc qu'il faut jamais faire, par exemple, c'est un personnage avec une veste en pied de poule. Ça, c'est le truc. Il faut être suicidaire pour faire ça. Bah, c'est drôle, le premier dessin. On se dit c'est cool, mais au 20e album, on est forcément dépressif.
Ouais,
j'avais pas du tout. Moi, j'avais une coupe de cheveux à la Hervé Villard quand j'étais gamin, et je me voyais mal commencer à dessiner cette atroce coupe de cheveux des dizaines de fois. Je pensais même pas à plus que ça. Et j'avais trouvé un petit bonhomme pour un autre projet qui avait une tête qui ressemble un peu à un champignon ou à un gland, en fait, et qui avait une mèche sur la tête. Je trouvais ça marrant. Je disais, tiens, la mèche, on peut l'utiliser aussi pour l'expression, elle peut bouger en fonction de son humeur. Donc j'ai dessiné mes potes, et au moment de me dessiner moi, j'ai mis ce petit bonhomme, il avait une tête d'œuf, je l'ai appelé Titoff. Voilà. Tout ça était destiné à être une sorte de journal, quoi, un travail personnel. Je pensais pas que
ça serait publié. Quand même ce côté croire en soi, en son envie en tout cas, et ne rien lâcher.
En fait, quand on est artiste, généralement,
parce qu'il y avait beaucoup de signaux,
on croit vachement en soi, parce qu'on est tout seul à croire en soi pendant très longtemps. Donc il vaut mieux y croire vraiment, parce que c'est dans l'indifférence générale pendant des années.
Mais quand on est artiste, le plus dur, c'est de convaincre les autres aussi, c'est de se vendre, entre guillemets.
Ouais. Alors, Bon, l'avantage de la bande dessinée par rapport au roman, par exemple, c'est qu'on n'a pas besoin de solliciter quelqu'un très longtemps pour qu'il voit ce qu'on fait. Il n'a pas besoin de lire 500 pages de manuscrit. On montre un gag, il rit pas, enfin voilà. Et Titeuf, ça s'est passé tout de suite. En fait, j'ai montré les pages et tout de suite les gens ont croché sur ce personnage. Et puis c'est allé relativement vite pour finir. Le premier album est sorti en noir et blanc parce que il passait dans un petit fanzine qui publiait pas de couleur parce qu'ils avaient pas d'argent. Donc on a dit bon, on va quand même le laisser en noir et blanc parce qu'au fond ça vaut pas la peine de mettre de la couleur pour ça. Il y a eu suffisamment de gens pour qu'on fasse un deuxième en couleur. Et puis voilà, de fil en aiguille, de dédicace en dédicace, il y avait de plus en plus de gens qui venaient.
Et aujourd'hui,
qui venaient.
Combien de millions de personnes achètent Titeuf?
Alors bon, j'attends les chiffres du Brésil, hein,
qui peuvent changer la donne. Ouais.
On doit être à 24 millions d'albums de Titeuf.
Pouch. Bah, c'est mérité. 2001, le guide du zizi sexuel et Jean-Jacques Goldman.
Elle met plein de petits chapeaux bizarres. Elle sourit quand elle marche dans la rue. Aux Indiens, aux livreurs, aux motards. C'est pas la plus jolie. Ça tombe bien, moi non plus.
Jean-Jacques Goldman, c'est lui qui vous contacte? Pour faire des pochettes d'albums,
oui, ouais.
Travailler ensemble.
Pour son dernier album, en fait.
C'est
on
vrai.
Savait pas encore, mais ce qui a été son dernier album.
Danse avec les pieds.
Ouais. Chanson pour les
Chansons
pieds.
Chanson pour les pieds, pardon. Ouais.
C'était génial, je me suis retrouvé...
Vous pensez qu'il a arrêté sa carrière parce que c'est vous qui avez fait la pochette?
Je pense, ouais. Il s'est dit c'est bon, quoi. On peut plus tout faire... a dit, comment aller au-delà?
Vous êtes hyper influent, vous lancez des carrières en politique, vous finissez des carrières artistiques, incontournable.
On sait pas ce qui va se passer pour nous.
Voilà. Ah oui, vous savez pas encore, on verra.
Et c'est le fameux guide du zizi sexuel, on est en 2001, que vous avez coécrit avec Hélène Brulère. Et l'idée, c'est de répondre... De l'époque.
Ouais.
Oui, de l'époque.
Voilà. Et l'idée, c'est de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les enfants sans qu'ils n'osent jamais le faire auprès des adultes. En
Ouais, voilà. Et puis c'est un peu comme Happy Sex. L'idée, c'était de faire de ce sujet quelque chose de léger et de marrant. Voilà, moi, je me souviens que enfant, c'était un sujet qui nous questionnait beaucoup, mais je n'ai pas l'impression qu'on était obsédé, mais on était inquiet parce qu'on nous disait des choses sur la sexualité qui étaient vraiment des infos très très parcellaires. On disait tu verras, l'adolescence, regarde les adolescents, tu vois comme ils ont l'air cons avec leurs boutons et leurs moustaches, tu vas être comme ça aussi. Après on voyait des adolescents qui se roulaient des pelles, on disait c'est atroce, c'est dégueulasse, et mes parents disaient tu verras, toi aussi tu vas aimer ça. Le cours d'éducation sexuelle, on nous montrait des planches anatomiques d'un monsieur sur une dame qui rentrait à l'intérieur de la dame. Puis on disait, mais comment on va pouvoir faire ça avec nos zizi de 3 cm? On disait, non, votre corps va se transformer. Alors nous, corps qui se transformait, à cet âge-là, l'image qu'on avait, c'était Hulk, par exemple, qui se transforme. Et donc c'était assez flippant, on disait, mais on va être vert aussi. Enfin, et on n'osait pas poser ces questions, mais qui étaient sincères. On disait, mais transformer comment? Parce que celui qui pose cette question, évidemment, toute la classe se marrait, alors qu'elle rêvait qu'on ait une vraie réponse. Donc on s'est dit, on va faire un truc où on répond à ces questions qui semblent des questions... marrantes et un peu bêtes, mais qui sont des vraies inquiétudes d'enfants. Et Titeuf jouait le rôle de celui, effectivement, qui sait toujours moins que les autres.
Et moi, j'ai des souvenirs avec des gamins dans mon entourage à cette période-là, qui avaient le livre entre les mains, qui avaient une sorte de malin plaisir à montrer que finalement, c'était plus réservé qu'aux grands, en fait. Parce que jusqu'à présent, le sexe, on sentait qu'il fallait fermer les oreilles. Et qui montrait le livre.
S'appropriait, c'est
ça. Oui, qui répétait souvent le mot sexuel. Il me disait, c'était une petite fille qui me disait, c'est le guide du zizi. Sexuel. Et elle sentait que ça nous mettait
Elle pouvait le dire.
Ouais, et qu'en même temps, on était là un peu gênés, mais que finalement, il n'y avait pas de soucis, quoi.
Bah oui, ça fait partie des mots qu'on adore dire quand on est gamin. Il est super, ton vélo sexuel.
En 2004, vous écoutiez...
Je suis un missionnaire de la drogue, je la fous. Le cul-toutou en espadrille à clous.
Machistador. Version live, parce que c'est l'un des artistes les plus talentueux en public.
En live, il est incroyable.
Incroyable. C'est un mec de spectacle, musicien éclectique avec des tonnes de qualités. Vous l'avez rencontré, vous avez.
À l'époque on se connaissait un petit peu et il avait même fait la musique, le générique du dessin animé Titeuf.
C'est vous qui l'avez choisi. Il était élu, pourquoi lui alors?
Je l'avais entendu en concert et j'avais trouvé complètement génial ce mec. Et donc je lui avais dit, est-ce que tu es d'accord de faire ça? Et il aimait bien Titoff. Je crois qu'il a un petit frère un peu plus jeune que lui, donc qui était lecteur assez fan hardcore du personnage. Donc il était assez content de faire le truc.
Et 2004, c'est une grosse année. Non seulement vous recevez le Grand Prix d'Angoulême pour l'ensemble de votre œuvre, Titoff entre au musée Grévin. Ouais. Et ça peut sembler moins important, mais il y a une sortie d'album à l'occasion de la sortie du 10e, je crois, album de Titoff, Nadia se marie. Mm-hmm. Il y a plein d'artistes qui sont invités.
Pour faire des portraits de Titoff.
Ouais, faire des portraits de Titoff. Ouais. C'est pas mal d'avoir le regard des autres.
C'est génial.
Surtout des auteurs que vous devez adorer.
C'est un truc qu'on aime beaucoup, en plus, dans la bande dessinée, le fait de dessiner les personnages des uns et des autres.
C'était formidable.
C'est cool.
Vachement bien. Ça, c'est la reconnaissance ultime pour un dessinateur ?
Pour moi, d'avoir des dessinateurs que j'ai admirés, Uderzo qui m'a fait un Titoff, Gottlieb, c'est super, quoi. Ça arrivait, c'était Noël tous les jours. Et moi, j'adore faire ça aussi dans mes albums, de faire intervenir
des caméos.
De temps en temps.
Il y a Pascal Brutal.
Pascal Brutal,
qui est au sol.
Qui fait partie du threesome.
Du threesome et qui est une victime collatérale.
Et en plus,
on le reconnaît bien.
On dirait que c'est Riyad Satouf qui l'a dessiné, tellement c'est bien dessiné. C'est formidable.
Oui, mais l'intérêt n'est pas de copier.
Donner sa vision.
C'est de l'interpréter. Comme un cover en musique.
Exactement.
Comme une reprise.
Et ça, il faut demander l'autorisation à l'auteur pour le
faire. Pascal Brutal, il faut demander.
Il est furieux, Riyad.
Si tu avais mon autorisation, il dit non. Vu ce qui lui arrive, il refuse.
Si, non, il aurait dit oui, Pascal Brutal, c'est mal.
Oui, non, je l'ai envoyé. À Riyad quand je l'ai fait. Généralement, c'est quelque chose qui nous amuse beaucoup. Tant que les auteurs sont là, c'est toujours quelque chose qui les amuse. Quand ils sont plus là et que c'est les ayants droit, c'est un peu plus compliqué. Je pense que Tintin dans Happy Sex, ça ne ferait pas forcément.
Il
ne faut pas y aller.
D'autant qu'il est au musée d'Angoulême. Il est au musée d'Angoulême, Tintin, avec Milou en particulier, dans une posture.
Albert Algou,
il est au musée, mais.
Il y a zéro sexe.
Dans Tintin on pourra en discuter des heures.
Non, mais oui ou non, il y a du sexe.
Oui, il y a du sexe, oui. La Castafiore.
Ouais, c'est une sacrée.
D'accord, ok. Non, mais Tintin lui-même n'a pas de
sexualité. Non, mais Tintin n'a pas de sexualité.
Non, mais lui n'a pas de sexualité.
Milou
Mais non, arrêtez. Bon, allez, ok.
Adoc.
Ça pose question.
Il n'y a pas de mal.
Pour Milou,
nous recevons un peu de respect, s'il vous plaît. Nous recevons maintenant Daniel Ballesteros. Oui, Daniel, vous êtes médecin et vous venez de publier L'amour, c'est bon pour la santé aux éditions de la Musardine, puisque justement le sujet, la toile de fond d'Apisex 2, signé Zep, est autour de la sexualité. Est-ce que on vit en France, en tout cas, une sexualité libérée, frustrée,
épanouie,
connectée?
Alors j'ai apporté un peu de fantaisie parce que jusqu'à maintenant c'était un peu
disons
sérieux,
c'était
très sérieux. Donc j'ai apporté un peu de fantaisie en disant qu'on est frusto-libéré, c'est-à-dire qu'effectivement par les mœurs actuelles on pense qu'on est libéré, mais en réalité il y a beaucoup de frustration. D'ailleurs j'ai lu avec beaucoup de joie votre album et ça marche jamais, hein. Ça marche jamais les rapports sexuels, c'est si vous regardez bien, ça foire toujours. Donc c'est un petit peu la vérité.
Et parce que c'est fait pour faire rire, donc ce qui fait rire c'est quand ça marche pas.
Ça fait pas rire les gens quand ça marche pas.
Hein.
Moi, j'ai les frustrés, j'ai les chez moi. Hein. Donc je veux dire que c'est pas très 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 rigolo.
Est-ce que la sexualité aujourd'hui en France est plus libérée qu'elle ne l'était il y a 20-30 ans, ou au contraire on revient dans un carcan?
Alors en 68 c'était la grande libération sexuelle, et puis arrivaient deux choses tout à fait étonnantes. Tout d'abord le sida.
Oui, il y avait la pilule avant.
Il y avait la pilule, effectivement. Ouais. Et en plus, il y a fallu attendre 20 ans pour découvrir un truc qui s'appelle le clitoris. Donc à partir de 1988, on s'est aperçu que les femmes avaient un clitoris. Ah oui, c'est d'ailleurs dans une
c'est
de
dans,
vos,
ouais, c'est très, très
de,
drôle.
De vos bandes, je ne sais pas si on peut dire bandes.
On peut dire bandes.
Parce que ça bande à toutes les...
C'est une bande dessinée dans une bande originale, oui.
On retrouve ce problème du clitoris. Donc c'est des découvertes actuelles, mais dans les années 50, on ignorait la fellation, le clitoris, etc. Donc maintenant, on commence à s'y mettre un petit peu. Mais disons, il y a bien sûr en plus, il y a l'histoire, on ne peut plus draguer comme on veut, alors que bien sûr sur le réseau soucieux, moi je les appelle comme ça, les réseaux sociaux, on drague à tout va, mais on ne peut pas draguer dans le réel. Donc ça met quand même des barrières entre les gens et ça entraîne une certaine frustration.
Alors justement, comment définir notre époque? Est-ce que c'est, puisqu'il y a eu la libération sexuelle dont vous parliez dans les années 60-70, on serait dans une sécurité qui serait définie comment?
Sous libération sexuelle. Parce que il y a, au milieu de tout ça, il y a une grande misère sexuelle. C'est un peu ce qui sort de votre album. Une grande misère sexuelle. Les gens, font l'amour plus ou moins comme ils savent. Au-dessus, on a besoin de sextoy, on a besoin d'un petit peu de sadomaso, on a besoin de bondage. Et puis en dessous, heureusement, Et c'est là-dessus que mon livre est construit. Il y a une nouvelle lame, si j'ose dire, sous-jacente, qui est le slow sex. C'est-à-dire de ne pas réduire le sexe à fellation, pénétration, éjaculation faciale, comme on voit dans tous les films porno, sur tous les réseaux. Donc, cette partie-là, c'est la partie finale, mais c'est la moins intéressante. Ce qui est important, c'est la partie avant, préliminaire. Et donc, il y a des bases anciennes qui existent.
Mais alors, pardon,
depuis...
pourquoi distinguer les préliminaires de l'acte en lui-même pourquoi...
Non, mais ça fait partie de l'acte.
C'est
mais...
ça.
Oui, ça fait partie de l'acte.
Mais... Non, vous dites, il y a l'acte avant, les préliminaires. Les préliminaires, c'est déjà faire l'amour.
Pour moi, ça peut se résumer qu'au préliminaire. On n'a pas besoin de pénétration, d'éjaculation, on n'a pas besoin de bander, excusez-moi d'être trivial. C'est cette partie préliminaire qui est la plus intéressante et qui, elle, va permettre justement, ce que j'explique dans mon livre, des systèmes d'auto-guérison. Ça peut paraître curieux de se guérir à travers le sexe. On guérit deux choses. On se guérit du sexe, mais on se guérit aussi par auto-guérison parce qu'on va déclencher, ce que j'explique dans mon bouquin, des tas d'hormones du bonheur, la sérotonine, l'ocytocine, la DHEA, etc., qui font partie de l'acte sexuel à condition qu'on prenne le temps de le faire. Ce soit plutôt un slow sexy. C'est pour tirer un coup, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui compte, c'est faire l'amour.
Oui, alors c'est ça, parce que on a beaucoup entendu que chez l'homme, par exemple, l'éjaculation évitait d'avoir un cancer de la prostate, ce qui est totalement faux. C'est pas l'éjaculation en elle-même qu'il pourrait faire tout seul dans son coin, c'est le fait de faire l'amour.
Oui, c'est le fait. Plus on fait l'amour, plus on a bonne santé, plus votre prostate est en bonne santé, c'est sûr. Mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'éjaculation. D'ailleurs, les méthodes anciennes, ancestrales, disent que sur 10 rapports sexuels, si on éjacule 2 ou 3 fois, c'est un grand maximum. Donc, c'est vraiment, on peut obtenir plus d'orgasmes sans éjaculation. On peut aller jusqu'au multi-orgasmique chez la femme, bien sûr, mais chez l'homme aussi.
Ah ouais. Chez l'homme aussi.
Chez l'homme aussi, c'est tout à fait. Si on sait, bon, certaines techniques, entre guillemets, qui sont écrites dans mon livre. Alors, je l'ai fait sur un côté ludique, hein, c'est un peu dans le style de votre livre. Moi, c'est un peu ludique, c'est marrant, parce que parler du sexe tristounet, c'est pas du tout rigolo. Donc, je l'ai fait un petit peu ludique. Et donc, vous avez vrai, il y a des tas d'anecdotes, dont j'en ai cité une tout à l'heure, qui étaient tout à fait croustillantes.
Est-ce que les fantasmes et les pratiques ont également évolué, ont changé? Est-ce que c'est le propre de toute société, finalement? Il y a toujours la même toile de fond, mais la perception, la vision et l'acte diffèrent.
Alors, il y a toujours le besoin de fantasmes, mais malheureusement, les fantasmes maintenant s'inscrivent sur des images qu'on voit trop en pornographie, etc.
Ça nuit
au fantasme, parce que la construction de la relation amoureuse a besoin de temps, d'images construites par les personnes et non pas par ce qu'on trouve dans les journaux ou sur Internet. Donc, c'est cette construction de la relation amoureuse qui va faire que petit à petit, on va être capable de construire avec quelqu'un un couple dans la durée et avoir des rapports sexuels de qualité.
Oui, parce que dans tout ça, il y a aussi de l'amour, parce qu'on parle beaucoup de sexe. Oui, mais parle de sexe, on parle peu de sentiments. Or, la sexualité avec et sans sentiments, en termes de santé, c'est totalement différent.
C'est complètement différent.
C'est tarifé.
Tu auras ta consultation.
Les consultations sont tarifées, mais pas le reste. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on est complètement dépendant de Dame Nature pour rencontrer quelqu'un. C'est selon certains critères bien établis du temps de la préhistoire qu'on rencontre quelqu'un. Et après, c'est à nous de savoir se détourner de ces gènes qui nous mènent à telle ou telle personne pour ensuite avoir une relation dans le temps de qualité avec la personne avec laquelle on est.
Et la sexualité homme-femme, là aussi, elle évolue pas de la même manière. Est-ce que la libération, et tant mieux, de la sexualité des femmes, qu'elles s'approprient les différentes manières d'orgasme, oui. Et puis j'allais dire de leur liberté, frustre, bloque, brime les hommes, ou est-ce que les deux peuvent aller ensemble?
Alors ça peut bloquer certains hommes qui sont pas, disons, j'ai quelques anecdotes dans le livre montrant ça.
Oui, on a compris que vous aviez un livre.
Qui ont un égo surdimensionné, effectivement, ils vont pas accepter les remarques de madame. Mais les gens qui sont à l'écoute de leur épouse, donc c'est écouter, ressentir ce que la personne veut. Et on est des tas. Maintenant, on rentre dans les neurosciences. Je m'excuse de parler de science. Hein, donc on a l'effet miroir. On a tout un tas de la téloménase, enfin bref, on a des tas de substances qui sont sécrétées au moment du rapport sexuel et qui entretiennent une bonne relation avec les gens.
Et alors, l'éducation sexuelle, comment expliquer les choses aux enfants? Faut-il le faire? Et si oui, à partir de quel âge on peut parler de sexualité avec un enfant?
Alors, je pense qu'on peut en parler très tôt, si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à partir de 12-13 ans, ils ont vu des films porno. Par contre, il y a une constante, c'est que c'est 17 ans le premier rapport sexuel chez l'homme.
En moyenne?
En moyenne. Et 17,5 chez la femme, parce que la femme est un petit peu plus réticente au début. Mais c'est normal, c'est inscrit dans nos gènes. Donc, ça.
Excusez-moi, expliquez-moi pourquoi.
Oui, parce que la femme, La femme est toujours, c'est encore
pourquoi la femme est toujours
du temps de la préhistoire. La femme avait toujours du recul par rapport à l'homme qui était chargé de féconder toutes les femmes de la tribu pour que la tribu se perpétue dans le temps.
Vous voyez, c'est, okay. C'est juste que la femme courait plus vite que l'homme à l'époque. Donc,
sauf que là, les choses ont changé.
Quand vous faites l'amour avec une femme, il faut quand même attendre 6 ou 7 minutes avant qu'elle se décide. Parce que c'est tout à fait hormonal.
Ce qui est fou, c'est que vous avez des tonnes de trucs à raconter sur le sexe et ça m'étonne que vous n'en fassiez pas un livre. Mais bon.
Ça va s'appeler L'amour, c'est bon pour la santé. C'est ça. Comme Happy Sex 2.
Et j'ai eu un message des éditions de La Musardine. Ils sont d'accord pour publier votre livre. L'amour. C'est bon pour la santé. Merci.
Déjà beaucoup de vendus.
Merci Daniel Messer. Tanguy Passureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Oui. Je suis très gêné parce que je découvre la phrase que je dois dire.
Mais dites-le.
Il y a un musée du vagin qui vient d'ouvrir à Londres.
Oui, Nagui. Alors
c'est le musée qui vient d'ouvrir à Londres.
C'est comme un musée normal, sauf que s'ils avaient la Joconde, on ne verrait pas sa tête, mais son vagin. Ce qui serait logique parce que ça fait quand même 500 ans qu'elle nous sourit. Je pense qu'à un moment, on peut conclure.
On en parle après les infos.
Absolument.
Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la bande originale sur France Inter. C'est reparti avec toute l'équipe et notre invité Zep et son Happy Sex, le deuxième du nom réservé aux adultes. Mais on va se marrer quand même pour bien finir l'année en beauté. Happy Sex, publié chez Delcourt, c'est le deuxième tome, 10 ans après. Ça peut paraître long, c'est parce que vous avez d'autres choses à faire ou chercher des idées?
Un coup tous les 10 ans, c'est bien.
10 ans, mais 60 Allez. Planches.
Ouais, quand
vous n'avez pas poussé la vanne en faire 9 de plus? Vous avez dit non, on va rester là?
Non.
Ok, très bien. À quel moment d'ailleurs vous vous dites qu'une planche passe ou pas? Est-ce que vous vous interdisez? Est-ce que c'est sans limite? Est-ce que la limite est justement de faire rire les personnes de votre entourage comme une espèce de baromètre?
Vraiment, faut que ce soit drôle. Et généralement, celles qui sont le plus drôles, c'est celles qui parlent le plus de notre quotidien. Si je raconte une histoire, une anecdote complètement incroyable de quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai une histoire avec 14 partenaires hein, », ça va être moins... Ça peut être spectaculaire, rocambolesque, mais ce sera moins marrant parce qu'on est moins dans le quotidien. Pour finir, ce qui est le plus marrant, c'est le mec qui négocie la sodomie avec sa copine, enfin ce genre de choses.
Alors ça peut être quotidien. Les clubs échangistes, oui. les spas où tout le monde fait l'amour et...
Vous reconnaissez la voisine.
Et les orgies, oui, vous reconnaissez la voisine. Ne lui parle pas.
Je suis tombé sur Nicolas Demorand une fois, ça fait drôle. Hein. T'entends plus la matinale pareil.
Non mais donc c'est vous allez chercher quand même des histoires, c'est plus des anecdotes du vécu, c'est enfin j'espère.
Non pas. Mais c'est rarement sont rarement des anecdotes hein, c'est des histoires qui sont inventées en fonction de ce que je vais chercher à gauche à droite et puis l'histoire doit sonner souvent une histoire inventée elle va sonner plus vraie qu'une vraie anecdote.
Et celle des enfants qui surprennent les parents, le cunnilingus dans la cuisine où un gamin surprend ses parents.
Mais il croit que sa mère accouche.
C'est extrêmement drôle.
C'est une longue jupe. Oui, il y a une longue jupe.
Parce qu'il y a des pieds qui dépassent. C'est ceux du mari. Il croit que c'est ceux de l'enfant.
Et donc il va appeler son père en disant vite, il faut appeler les pompiers, il faut aider maman, elle accouche.
Ça, c'est une histoire presque qui pourrait être dans un Titeuf, en fait.
Oui,
c'est ça.
Donc j'en ai mis, je crois qu'il n'y en a qu'une avec des enfants, mais c'est toujours assez marrant. Je crois que dans le premier Happy Sex, il y avait plus d'histoires avec les enfants, mais aussi parce que à l'époque, mes enfants étaient plus jeunes, donc j'étais plus confronté à ce genre de truc. Aujourd'hui, ils feraient pas semblant et ils diraient pas « Oh là là, maman est en train d'accoucher ». Je pense qu'ils ont compris.
Le mode d'emploi de la fellation, c'est extrêmement drôle. Enfin, tout est extrêmement drôle.
Ah, ça, je me suis bien amusé à dessiner. Le truc frustrant, c'est que quand même, le dessin est petit et de dessiner aussi
le sexe d'homme, c'est
une centaine de sexes différents.
Ouais.
Non, c'est génial. Moi, j'adore dessiner parce que c'est comme les visages en fait, les sexes.
Il y en a pas deux qui ressemblent.
Mais c'est très petit dans une BD. Alors celui-là, on est un peu plus dans du gros plan et aussi celui des selfies où on voit les choses un peu.
Oui, c'est une jeune femme qui fait des selfies, smiley, licorne, miss you, mais à chaque fois, c'est avec le sexe d'un partenaire. Elle envoie ça à sa copine comme blague. Ça pourrait être horrible et obscène, mais c'est très drôle.
Ça tombe le dimanche au dîner de famille et que le téléphone est posé sur la table et que c'est les parents qui voient.
Tu as reçu la photo de ta copine.
Mais jamais les hommes ne sortent grandis des histoires. Mais en fait,
non, bah non, ça, non,
mais c'est avec tendresse à chaque fois.
Les femmes, pas forcément non plus.
On
raconte les ratages surtout. C'est ce qui est marrant et on a besoin de rire de ces trucs-là. Mais c'est vrai que l'homme, comme on est plus dans l'idée de la performance, de montrer des contre-performances, c'est, on a l'impression qu'on s'en prend plein la gueule. Mais je crois pas qu'on en prenne plus que
la, la politesse, laver les mains et, ou ne pas parler la bouche pleine aussi en amour, tout ça fait partie des grandes vannes, des grands
et
moments.
Le message des fleurs et des plantes, là, pour
le langage formidable. On n'achètera plus des fleurs pareilles maintenant.
Ah, non, clairement. Happy Sex 2, vous comprenez bien qu'on ne peut pas en dire trop, mais qu'on vous
Déjà, on a fait pas mal, là.
Mais qu'on vous met l'eau à la bouche. Happy Sex 2, c'est chez Delcourt. Voici Tanguy Passion. D'après une rumeur qui circule à France Inter, Tanguy, vous n'avez pas de vagin.
Non, Nagui, puisque je suis un homme. Et malgré le handicap que représente le fait d'avoir un pénis, quand on fait du poney, on n'est pas super bien installé. Eh bien, j'ai choisi de le rester, plutôt par flemme, parce que j'ai pas envie de refaire tous mes papiers, hein, que par passion. Parce qu'avoir un pénis, c'est un enfer. Prenez Aymeric Caron, qui est vegan. À cause du sien, il ne peut pas faire de nudisme, parce qu'à la supérette, stimulé comme il est par le végétal, il est capable d'entrer en érection au rayon fruits. Et s'il est devant les bananes, il va forcément chercher à se comparer. C'est pour ça que moi, je n'achète que des sec, puisque je devrais pouvoir les battre jusqu'à mes 75 ans. Le pénis est un appendice maudit qui nous entraîne vers le gouffre. Si DSK n'en avait pas eu, cette fameuse soirée à l'hôtel, il l'aurait passé à pioncer. Aujourd'hui, il en serait à son deuxième mandat et Emmanuel Macron aurait pu finir sa scolarité. C'est fou de penser que depuis des millénaires, la société entière s'est organisée autour de gens ayant ce truc-là dans le calbut qui les déstabilise. Les femmes devraient être aux commandes. Greta Thunberg, la seule gosse à faire la même tête que Jean-Pierre Bacri, à 16 ans, se bat pour la planète parce qu'elle n'a pas de pénis, elle peut se consacrer à la Terre. Si vous êtes un gars de 16 ans, vous n'avez pas le temps, vous êtes occupé à tenter de maîtriser votre pénis. Ce qui revient à dresser 12 lions pour Félindra de Fort Boyard. Jamais une femme ne s'achètera de SUV pour compenser le fait d'avoir un micro-vagin. D'ailleurs, ça n'existe pas. La femme, c'est un être standardisé, un peu comme une commode Ikea, mais sans tiroir. Donc le vagin, on n'y pense jamais parce qu'il est moins visible. C'est son point commun avec François Bayrou. Seulement, on est en train de changer d'époque. Les pénis, c'est fini. En avoir un, c'est aussi ringard que d'écouter Ophélie Winter. Hein, j'ai essayé de vendre le mien sur eBay, je l'ai mis à 2 euros, aucune offre. Hein, même provenant du marché noir du trafic d'organes. Alors que pour 4 euros, le lot de 12 cerveaux des ch'tis de W9 est parti en une demi-heure. Aujourd'hui, les femmes sont au même niveau que les mecs. En politique, avant, elles devaient en faire 10 fois plus que les hommes pour s'en sortir. Bah, c'est fini. Ségolène Royal, en 2 ans de mission dans l'Arctique, elle a vu la neige une fois. 3 heures sur place, elle a caressé un Yuski, puis un Esquimau parce qu'elle n'avait pas ses lentilles. Le Yuski qui a fait ouf, l'esquimau a dit « Entendu, je voterai pour vous ». Et c'était plié. Elle a la vie d'un politique homme. Regardez les Balkany. Quand monsieur est en tôle, c'est madame qui gère. Et c'est pareil. Parce que les gens sont attachés au nom Balkany. À Levallois, vous présentez une chèvre, Biquette Balkany, au municipal, elle est élue. Battant 10 000 voix le Tekel, Rex Balkany. Les Balkany incarnent cette modernité. Fini le genre. Si demain Jean-Pierre Pernaut change de sexe et vient en jupe, les gens s'en foutront tant qu'il ouvre son JT sur la première gelée hivernale dans la région de Dijon. On tend peu à peu vers une égalité totale. Exemple, en Islande, existe un musée du pénis qui fait 10 000 mètres carrés, seulement 3 mètres carrés quand il fait froid. On y trouve des phallus d'animaux, d'ours, mais aussi de dauphins. Et on comprend mieux en les voyant pourquoi dans le Grand Bleu, le monsieur les choisit eux plutôt que sa femme.
Et donc, il y a un musée du vagin qui arrive.
Et oui, il est à Londres et c'est le premier musée dédié au sexe des femmes. Alors, il y a des œuvres en forme de vagin en réponse, dit la fondatrice, au musée du pénis de Reykjavik, puisque la concurrence ça stimule. Hein. Si demain je lance un musée de la fesse gauche, dans le quart d'heure un Espagnol lancera celui de la fesse droite, ou un Suisse celui de l'anus, parce que ces gens-là refusent de choisir. Il y a aussi au musée du vagin une partie informative, puisque la fondatrice explique que la moitié des Anglaises est infoutue de localiser précisément son vagin, parce que l'appareil génital féminin est très complexe. C'est comme un plan du métro l'été quand les trois quarts des stations sont fermées pour travaux, alors que l'appareil masculin c'est Google Maps avec la 5G. Direct, on cherche ce qu'on trouve. Bon. On trouve ce qu'on cherche.
Ah ouais.
Or, cette dame explique que ça permet de définir la notion de consentement sexuel. Parce qu'une femme qui ne connaît pas son corps ne maîtrise pas les limites de ce qu'on peut lui faire subir. À titre de rappel, déjà, il faut que la personne dise oui. Hein, ou yes si elle est anglaise. Ou yes, oui si elle a la double nationalité. Voire si yes, oui, da si elle est pour le multiculturalisme. TV5 Monde, la chaîne qu'on garde quand on est à l'étranger et qui n'a rien d'autre en français à la télé, a interviewé des visiteuses du musée, dont Anna, 20 ans, qui dit « Je trouve ça génial. » génial d'entendre quelqu'un parler ouvertement du vagin. Parce que les gens n'osent pas. Quand je prends un café avec Daniel Morin, jamais je lui dis Daniel si on parlait vagin. C'est pour ça qu'on parle plutôt du temps qu'il fait. Et Anna ajoute, je viens d'une famille de la classe moyenne et on ne parle pas du tout de ça entre nous. Mais enfin, il n'y a pas que dans la classe moyenne. Nulle part on en parle. Le sexe des femmes est tabou. En karaoké, le zizi de Pierre Perret, on chante tous. Hein. Le petit, le gros, le laid, le mou, celui de Nagui, celui de Tanguy. Mais jamais on ne chante le vagin. Personne ne chante tout. Vous saurez tout sur le zouzou, celui de Madame de Fontenay, exposé au puits du fou. Celui de Martine Aubry qui jamais ne sourit. Non, on le passe sous silence. Et c'est ça la première des inégalités. C'est qu'une vanne de texte sur son pénis n'a pas son pendant. Et là, je réalise que le mot est mal choisi. Bon, son pendant féminin. Celle de l'Africaine qui fait pipi dans l'eau et trouve qu'elle est fraîche n'existe pas. Et tant mieux d'ailleurs. Bref, pénis partout, justice nulle part. Allons vers l'égalité à ce niveau-là aussi. Merci.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Vous êtes bien dans la bande originale, notre invité est Zep. On va le retrouver dans quelques instants, mais d'abord voici Agnès Obel avec Island of Doom. Island of Doom, c'était Agnès Obel. On retrouve la bande originale de Zep aujourd'hui sur Inter. Allez, des questions culture pour la bande originale.
C'est
et
mon rayon.
Zep, quel est le nouveau projet commun, avec Will Smith et Leonardo DiCaprio? Ils ont un projet en commun, lequel?
Un album.
Sauver la planète.
Sauver l'Amazonie. Un documentaire.
Oui, mais comment?
Donner de l'argent.
Non.
Ils font campagne contre Trump.
Non. Ils veulent sauver l'Amazonie. Ouais. Mais comment?
En attachant Trump contre un
argent. Non.
En parachutant des zizis sexuels sur...
Non plus. Sur Bolsonaro. Non.
En interdisant les autoroutes.
En récoltant des fonds pour financer...
Oui, et comment? Avec...
Par un film, par une chanson, par un concert.
Avec l'ordre. À chaque fois du cinéma.
Il crée quelque chose.
Une fondation.
Il crée...
Un prix, un jeu concours.
Un festival.
Temps avec eux.
Il fabrique un objet pour
ses chers. Un arbre.
Non. Mais...
Une peluche.
Un slip. Non.
Une plante. Une fleur.
Et un préservatif.
Non, ben non. Et dans
la sextoy,
il y a quoi après la chaussette?
Les chaussures.
Des pieds.
Des chaussures.
Ah, des chaussures.
Je suis fatigué.
Vous prenez pas ce que
je
fais.
Je vous ai de plus en plus bas.
Vous avez vous planté les choux.
Je croyais que tu parlais d'Happy Sex, parce que l'album est en dessous.
Non, ils ont décidé d'unir leurs forces pour sauver la forêt amazonienne et avec une société qui s'appelle All Birds, qui compte la star du revenant parmi ses investisseurs. Ils ont créé une, puis il y a une marque d'eau aussi, je crois, dans la famille Wessis. Ah oui, enfin bref, ils mettent au point donc des paires de baskets en édition limitée. 100% des bénéfices engrangés par les ventes iront directement aux Amazon Forest Fund, créé par Leonardo DiCaprio, qui a déjà versé 5 millions de dollars à la fondation. Et sont des poids lourds qui se mettent au service. Mais pardon, c'est ce que vous faites vous aussi, Zep, avec Titeuf, c'est-à-dire un engagement, si ce n'est pas pour l'Amazonie, c'est humanitaire. Je me souviens d'Handicap.
La Fanny, ça va être dur parce qu'ils n'ont pas envie de. Ils ne m'ont pas appelé.
Non, mais je me souviens de Handicap international.
HCR, HCR aussi, non?
Bah oui, mais souvent, en fait, Titeuf a souvent été porte-parole de
valeur,
d'un message.
Puis Zep, il offre des dessins, des planches à des gens qui ont des belles causes. Donc, je veux le saluer au passage.
Non, non, mais c'est un mec bien, voilà, extrêmement généreux. Et il fait pas que des horreurs sur la sexualité, sur l'humour.
C'est pas qu'un dégueulasse.
C'est pas qu'un dégueulasse, voilà. C'est quelque part un mec bien, si on gratte un peu. Le maire de Rio, tiens, pour votre plaisir, Zep, on va repartir au Brésil. Le maire de Rio vient de faire interdire...
Ah, c'est en trois mots.
Il vient de faire interdire une bande dessinée. Quelle explication a-t-il donné?
Mauvais exemple.
Non.
Incitation à la violence, à la haine,
à la drogue. Il a un personnage qui lui ressemble dedans.
Non, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça.
Incitation à polluer, à ne pas respecter la ville, les règles.
À l'homosexualité.
Exactement, Jérémy. Bien vu.
Terrible.
Elle montrait deux super héros, hommes, qui étaient en train de s'embrasser.
C'est et donc, Marvel.
Début juin, la Cour suprême du Brésil a décidé de criminaliser l'homophobie. Et pourtant, le maire de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a obtenu le retrait d'une bande dessinée qui montrait deux super-héros hommes en train de s'embrasser.
C'est Marvel?
Je crois, ouais.
Je sais pas si c'est Marvel.
Un comic sur un Marvel.
C'est que pendant ce temps-là, ils sauvent pas le monde. Donc
oui, non, mais tu as raison, c'est Young Avengers. Ouais. Les justiciers, la croisade des enfants. Est-ce que, justement, vous avez déjà été, à part par Bolsonaro, censuré, interdit?
Non. Il y a eu des tentatives, il y a pas mal de... Encore maintenant, je crois qu'il y a un comité au Québec qui tente depuis 20 ans de faire interdire Titeuf de librairie. Mais
tout Titeuf?
Ouais.
Mais pourquoi? Sur quel prétexte?
Bon, parce que ça parle de sexualité. Alors que non, c'est pas vraiment le sujet, mais enfin, il y a des histoires où les enfants parlent de sexualité. Donc c'est voilà.
En France aussi, il y a quand même plein de groupes de parents d'élèves à un moment qui ont voulu faire supprimer.
Chaque fois qu'il y a eu l'exposition du livre sexuel qui se déplace quelque part, il y a un comité qui veut la faire interdire.
C'est toujours les mêmes d'ailleurs.
Les mêmes des albums jeunesse, standard.
Il y a un précédent en Ukraine où Bob l'éponge est interdit. Non, si, c'est incitation à la sexualité.
Bob
l'éponge. Pour ses relations avec l'étoile de mer.
Avec Patrick.
Ouais.
Avez-vous
Attends, il y a plein d'orifices, Bob l'éponge.
C'est du gâchis.
Hyper provoquant.
Lui, on l'appelle le trou. C'est Daniel Morin.
Ah, oh, c'est gentil. Il connaît tous mes surnoms, c'est impressionnant. Attention, elle sera bientôt de retour en France. Elle, c'est Touba Gondal, une ancienne de chez Daesh que la Turquie renvoie vers son pays d'origine. Alors, le truc de Touba, c'est le couple. C'est elle qu'on appelait la marieuse. Elle faisait venir des jeunes femmes qu'elle mariait à des combattants de chez Daesh, une espèce d'agence matrimoniale, et elle toute seule, là, tout bas. Et ça marchait plutôt bien. Hein. Toutes les rencontres ont abouti à un mariage. Comment ça se passait? Ah ben, c'était simple et efficace. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous.
Merci.
Alors, vous cherchez un mari?
Non, pas spécialement.
Si, vous cherchez un mari. Si, vous cherchez un mari.
Ok, très bien. Oui, je cherche un mari.
Ah, parfait. Vous êtes venu à la bonne adresse. Alors, je vous propose ce profil, hein, qui, j'en suis sûr, vous conviendra parfaitement. Il s'appelle Mokhtar Ben Mokhtar, l'égorgeur. Tenez. Voilà la photo. Alors?
C'est-à-dire qu'il a quand même un œil crevé, une oreille arrachée?
C'est vrai, il a aussi une jambe en moins, un enfoncement du crâne, il lui manque toutes les dents de devant, mais c'est un grand combattant, vous savez, vous avez de la chance.
Ben justement, j'ai peur que sur ce coup d'avoir un peu trop de chance. Je peux voir un autre profil?
Désolé, ça va pas être possible.
Bah quand même, j'ai le droit.
Non! C'est Mokhtar Ben Mokhtar, l'égorgeur, et puis c'est tout.
Ok, va pour Mokhtar.
À la bonne heure, j'entends déjà roucouler les tourterelles.
Impressionnant. En France, de retour, là, elle va cartonner.
Tu es moche, tu es cassé, il te manque des membres, tu es violent, tu pues de la gueule, bref, personne ne veut de toi. Ne perds pas espoir et inscris-toi dès aujourd'hui. Oui, inscris-toi chez La Marieuse. Fort de son expérience chez Daesh, La Marieuse, c'est 100% de réussite dès le premier rendez-vous. Son secret, elle ne te demande pas ton avis. Toujours ça le problème, on demande trop aux gens de donner leur avis. Beaucoup de pertes de temps et on passe peut-être à côté de belles opportunités. À demain.
Merci.
La bande originale avec Maggie.
L'actualité de Zep, notre invité, il y a le Happy Sex 2 chez Delcourt, le Capitaine Biceps avec Thébault, c'est chez Glénat. Leïla, qu'as-tu retenu de Happy Sex 2 ?
Alors ben que j'invite tout le monde à le lire parce que je me suis vraiment fendu la poire et que c'est hyper réjouissant de rire. Oui, je sais, ne dites rien. C'est hyper réjouissant de rire et je suis complètement d'accord avec vous. C'est sans doute un support hyper utile pour parler des choses qui posent problème.
Daniel Morin,
merci. Moi, j'ai retenu en parcourant Happy Sex il y a plein de trucs que j'ai proposés qui m'ont été refusés et qui pourtant sont totalement acceptés.
Albert,
un formidable album et très grand dessinateur, il faut le souligner.
Ouais, le trait. Jérémy, ouais,
60 planches, je me suis retrouvé dans 22.
C'est pas assez. Tanguy Passureau.
Il faut que je lise et que j'apprenne des choses parce qu'il est temps que je sorte de la virginité.
Et vous aimeriez, Zep, que l'on vous dise j'ai lu votre livre et.
Je me suis marié.
Ouais. C'est des rires sonores.
Faut que ce soit. Enfin, c'est pour faire de rappeler que la sexualité, c'est le terrain de jeu des grands. Pour finir, on n'a plus tellement de terrain de jeu, de trucs où on invente des histoires, où on peut jouer des rôles, où on peut faire le fou, quoi. Et le sexe, c'est ça, c'est le terrain de jeu des grands. Donc, rappeler que c'est voilà. On est censé s'amuser, s'épanouir dans cet espace-là.
Est-ce que vous êtes obligé d'expliquer aussi à certaines personnes que c'est pas forcément vous ou votre vie personnelle qui est caricaturée dans Non, parce qu'on se dit toujours un auteur, il y a une part autobiographique, donc.
Oui, non, mais comme il y a des gens de tous âges, donc on m'associe plutôt aux personnages qui sont déjà qui ont la
cinquantaine. Parfois ils vous ressemblent, hein.
Oui, il y en a un ou deux qui vous ressemblent.
Ceux qui ont du mal à
demander
ou.
Ah, j'ai pas dit lequel. Hein.
Non, mais c'est vrai, il a raison. Il a raison. Ça s'appelle Happy Sex 2, c'est extrêmement drôle. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Alors, bien sûr, pour commencer, désolé pour Jair Bolsonaro, Jair le jardinier, dont l'intégrité, le bon goût, la morale, la vertu ont été moqués, raillés, malmenés, tambourinés par l'ensemble de cette tablée de pervers dégueulasses. Enfin, vous le savez, les gars, jamais on ne salit les amis de Nagui. Oh, j'espère que ça va rentrer, hein. Désolé pour l'élégance, la romance, la France. Ce matin, aucune blague douteuse, graveleuse, odieuse n'a été loupée. Vous me connaissez, j'en éprouve une gêne, une honte, un dégoût profond. Et en même temps, une forme d'attraction, d'excitation, d'érection. Enfin bref, désolé pour les fidèles auditeurs lettrés de France Inter qui, ce jeudi 19 septembre, ont pu entendre cet échange historique pour la première radio de France. Je cite « En tub ». Bonne réponse. Vous me connaissez, j'en éprouve une gêne, une honte, un dégoût. Et en même temps, bon, vous connaissez la suite.
Merci Zeb, merci mille fois, bravo.
Bah, merci.
On a de l'admiration et pour.
Qui en a appris des trucs.
Et pour l'artiste et pour le bonhomme. Et merci pour tous les conseils donnés à Daniel Morin et à Jérémy Crédville autour de cette table. La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans une nouvelle décennie, 2020, même heure, même endroit. Ça sera Pierre Arditi qui sera notre invité, qui viendra nous parler de son amour du vin. Et ce, à propos, bon réveillon avec modération, s'il vous plaît, à toutes et à tous. Tout de suite, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Et bonne année!